Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Flavie. Flavie, ça va la pêche ?
Oui, ça va très bien, malgré ta voix un peu étrange, tout va bien.
Ouais, j'essaye de... J'en ai marre en fait.
Tu as créé un style du coup.
Comment ça, Flavie ?
Ça va très bien, monsieur Romaric. Ça va très bien, c'est le nouveau style de la cellule, esprit fête foraine.
Au mythe maximum. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on va surtout faire un, plus que tester, faire un playtest.
Ah, on va faire un playtest, voilà. D'accord. Okay.
C'est un jeu de Morgane Régnier qui s'appelle Into the Wood, qui est en création et du coup, elle a besoin de playtester.
D'accord, ouais. Et Elle n'est pas là.
Donc, elle m'a envoyé le texte par Internet. Mmh. Et puis j'ai lu le texte, et puis je vais vous expliquer comment on va jouer Rome et moi à Into the Woods.
C'est un jeu à deux, c'est pour ça qu'on est que deux.
C'est pour ça qu'on est que deux, voilà, parce qu'un troisième c'est pas possible.
D'accord.
Donc c'est un jeu à deux, et puis du coup on verra ce qu'il en est, sachant que c'est vraiment une partie bêta quoi, enfin, donc on va voir ce que c'est.
Une bête partie tu veux dire?
Non, une partie bêta. D'accord. J'aime bien dire bêta.
D'accord. Voilà.
Alors, en effet, Into the Woods, c'est un jeu qui se joue à deux. Ah. Alors, que joue-t-on ? On joue un esprit et un promeneur qui vont se rencontrer dans la forêt, d'où le titre Into the Woods.
Mmh.
Ah ouais, mine de rien.
Ouais, c'est recherché.
D'où le titre du coup Into the Woods. Et ils vont être amenés à développer une relation. Au fur et à mesure de leur rencontre, cette relation est symbolisée par un ruban qu'on s'attache au fur et à mesure de la relation à nos poignets. Et plus la relation grandit, plus on enroule le ruban autour du poignet, sachant que si le promeneur et l'esprit sont amenés à se toucher, l'esprit disparaît pour toujours.
D'accord.
Donc il y a un petit côté, je lui ai dit ça, je lui ai envoyé ça dans un mail. Moi, ça m'a fait désespérément penser à Buffy contre les vampires, mais c'est mon côté bidinette.
Oui,
hein. Angel,
pas.
Buffy, interdiction de se toucher, mon envie de baiser. Bon, bref. Techniquement, après avoir lu ce jeu, c'est pas tout à fait ça. Voilà, on n'est pas avec un vampire, hein, quoique je pense qu'il est tout à fait possible d'en créer un. Mais voilà, il y a cette interdiction de toucher qui pousse à la sensualité, avec le ruban qui nous rapproche. Et moi, ça me tentait vraiment de jouer ce jeu-là, voilà, et de le tester.
D'accord. Ça veut dire qu'après le débrief de la partie, logiquement, on devra avoir envie de forniquer.
Je sais pas, on va voir.
Est-ce que c'est un jeu comme romance érotique, tu
non,
sais, ces jeux un peu érotiques?
Non, pas du tout érotique.
Non, d'accord.
C'est plus poétique sensuel.
Poétique sensuel, d'accord.
Sachant que ça se joue sans dés. Voilà, il y a des tours de jeu qui sont décrits et qui expliquent comment on doit jouer. Alors, de prime abord, quand je le lis, les tours sont assez bien décrits, mais je pense que ça s'adresse à des joueurs qui savent un petit peu improviser.
D'accord, ouais.
Je pense que si vous êtes le type de joueur qui ont besoin d'avoir un objectif avant d'avoir la scène à jouer, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est... C'est des idées que j'ai, hein. On va voir comment ça se passe pendant la partie. Sachant que le jeu se déroule ainsi.
Il y a très peu de règles, hein. Je vois que tu as quoi ? Tu as 3 pages ?
J'ai 7 pages.
7 pages, oui.
Il y a la rencontre, au terme de laquelle on s'attache les poignets, mais on doit être autant éloigné que le ruban le permet.
D'accord, ouais.
Et en fait, on doit ensuite jouer les différents rendez-vous qui doivent être espacés d'un certain temps.
D'accord.
On décrit à chaque début on explique en fait de combien de temps les rendez-vous se sont espacés.
D'accord.
Et pour chaque rendez-vous, il y a le rendez-vous en tant que tel, et ensuite il y a la scène de l'errance où le promeneur rejoint la réalité. Et il rejoint la réalité, et donc on décrit comment cette rencontre avec un esprit finit par avoir un impact sur lui. Et puis, au fur et à mesure, quand l'intimité grandit, on enroule le ruban autour de son poignet. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, on se rapproche. Il est impossible de dérouler le ruban, ce qui fait qu'il est impossible de s'éloigner. On peut juste rester en statu quo.
D'accord.
Et puis, au fur et à mesure, on se rapproche. Donc, la possibilité de faire un faux mouvement dans la vraie vie apparaît.
Et si on se touche, la partie est terminée alors ?
Si on se touche, la partie est terminée. De la même façon, tout à la fin, on peut déterminer, il y a diverses modalités pour déterminer comment on finit la partie, mais j'ai pas, je t'en parlerai plutôt hors micro. Je pense qu'on en parlera après parce que je pense que ça peut être intéressant. D'accord.
Ce sera plus dans le débrief.
De voir quand.
Donc moi, je connais pas du tout ce jeu. Je n'y ai jamais joué. Je fais pas faussement mon naïf. J'y ai vraiment jamais joué. J'ai assisté à une partie, par contre, entre Fabien et Natacha. Cet été, mais voilà, j'ai pas.
Alors, sachant que c'est un jeu quand même assez intimiste, pour moi, il faut y jouer à deux, mais sans personne à vous regarder.
Ouais, parce que.
Parce que sinon, je pense que c'est un jeu qui est censé créer de l'intime.
Est-ce que tu penses pas que le format même du podcast là va nuire un peu à l'ambiance?
Non, je pense qu'il faut. C'est pour ça que je veux pas tout te raconter pour l'instant. D'accord. Avant la partie, je veux t'en parler après et qu'on en parle après, parce que je pense que y a toute une partie intime qui doit arriver. Et que ce serait dommage de la gâcher en parlant de tout dans le podcast avant.
D'accord, très bien. Bon, ben, on va jouer à ça.
Sors le ruban.
Voilà, fin de la courte partie d'Into the Woods. On a joué combien de temps à peu près, Flynn?
Je pense une demi-heure.
Une demi-heure.
C'est... Une demi-heure. T'en as pensé quoi? Parce que c'est pas du tout ton genre de jeu à la base.
Non. Mais j'ai trouvé ça bien. Mais justement, moi j'ai plein d'interrogations à ton sujet.
D'accord.
Parce qu'en fait, moi j'ai trouvé ça bien parce que j'avais une position que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est-à-dire que je jouais l'esprit. Et l'esprit, je trouve que dans le jeu, il a une position, pas de meneur de jeu, mais c'est lui qui a le plus de choses, le plus de secrets, le plus de choses à raconter. J'avais l'impression d'être plus meneur de jeu et toi joueuse, tu vois, quelque part dans la sensation. C'est-à-dire que je connaissais plus. Alors, quelle est ta sensation? J'ai t'entendre toi.
J'ai pas ressenti ça, moi, mais. D'accord. Moi, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, moi, la partie m'a plu. Je trouve qu'on a joué un truc vachement. Assez
émouvant.
Hein.
Mais c'est la légende, en fait, dont on s'est inspiré qui est vachement.
Mais le principe du jeu, c'est ce principe-là. On est censé parler de légende avant de. Quand on décrit, en fait, quand on va s'apprêter à jouer, on doit parler de l'environnement et décrire les légendes, etc. Et c'est d'accord. Pour ça que je t'en ai parlé.
Alors justement, il va peut-être aller. Donc t'as été très ému.
Très ému. Alors on a choisi de jouer juste à côté de chez nous, dans une forêt qui s'appelle la forêt du Ménil.
Voilà. De l'étang du Mirelou.
Voilà, parce qu'il est bien précisé aussi, on joue à l'époque actuelle.
Voilà. Ah, il y a quelque chose d'intéressant dans la forêt du Ménil, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une allée couverte, c'est-à-dire un ensemble de menhirs sur lequel reposent des dolmens, et ils se succèdent les uns les autres pour former en fait une espèce de gigantesque une allée couverte, quoi. C'est-à-dire que imaginez en fait une allée entourée de menhirs avec des dolmens par-dessus, et vous passez en fait sous les dolmens. Alors on y passe à genoux, hein, c'est pas très très grand, hein, le dolmen du Ménil, mais c'est un lieu qui est très enchanteur et sur lequel on raconte de nombreuses légendes. Et donc moi j'ai choisi de m'inspirer d'une de ces. C'est un bois que je connais bien, j'y vais chercher des champignons, et j'adore cet endroit, vraiment. On y va très souvent, d'ailleurs on y est allé hier.
Ouais, c'est vrai.
On y est allé hier. Et c'est intéressant, ça.
Bah, d'ailleurs, quand on a commencé le jeu, du coup, on a choisi l'automne et j'avais l'image d'hier en tête avec les images, les belles couleurs de l'automne, ce qui m'a bien inspiré pour le début.
Ouais, on a choisi de jouer en automne, effectivement. Ouais.
Et du coup, ça amène ça. On est censé expliquer s'il y a des traces humaines dans les bois, type ruines, sanctuaires, quelle est la saison, etc. Moi, j'ai eu un questionnement au début sur quand je crée la promeneuse, je dois décider mon prénom, les détails de l'apparence, comment j'ai entendu parler des esprits qui habitent dans cet endroit, et pour quelles raisons je vais m'égarer dans les bois. Alors, le fait que je doive dire, préciser avant pourquoi je vais m'égarer dans les bois m'a posé souci. Parce que j'aime bien me laisser aller. Mais je pense que pour des gens, du coup, me laisser aller dans la description et dire comment je vais me perdre. Et le décider avant me gêne. Mais je pense que pour les gens qui ont besoin d'un objectif, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, mon souci quand j'ai créé mon personnage, c'est qu'il n'y a pas dit si on doit le garder pour nous ou non.
Alors voilà, ça c'est la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que oui ou non on doit garder les éléments qu'on crée en tant qu'esprit et en tant que personnage pour nous, ou est-ce qu'on doit les partager avec l'autre joueur?
Est-ce qu'on doit se découvrir en jeu ou est-ce qu'on partage avant?
Falloir que Morgane tranche la question.
Parce que c'est pas précisé, je pense que du coup, voilà, suffit juste de le préciser, voir. Moi, personnellement, ça m'a posé souci. J'aurais bien aimé qu'en fait, on se décrive au moment où on se rencontre.
Sinon, il n'y a plus de de raison de se promener ensemble.
Ouais. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé, alors, j'ai pas eu ce problème-là dans les autres rendez-vous. Il y a précisé vraiment, en fait, ce qu'on doit faire. Mais je trouve que la rencontre est précisée de façon assez succincte. Et du coup, moi, j'ai eu, lors de la rencontre, un petit souci. C'est-à-dire que je rencontre un esprit de la forêt. D'un côté, à la base, on joue actuellement, hein, donc est-ce que...
On joue Pierre, un fermier, habillé en peau de mouton, peau de bête. Hein,
on peut jouer d'autres choses, on peut jouer des esprits avec aussi des éléments surnaturels. Toi, voilà. T'as choisi de pas jouer ça.
Moi, j'ai pas fait un truc surnaturel, par contre...
Par contre, tu pouvais pas avoir d'interaction avec l'environnement autour.
Et j'étais en décalage avec l'époque. Oui. On voyait bien que j'étais un paysan ou un fermier d'une époque, pas forcément moyenâgeuse d'ailleurs... Mm-hmm. Plutôt peut-être début du 20e ou fin du 19e.
Et du coup, dans la fiction, quand on se rencontre, parce que je me suis égarée dans la forêt en suivant de belles couleurs de forêt d'automne, et que je me suis égarée, rencontrer l'esprit, comme du coup, il n'avait pas d'éléments véritablement fantomatiques ou légendaires sur lui, ça faisait que ça pouvait juste être un gros déglingos qui voulait me choper dans la forêt. Et donc du point de vue de, j'ai eu envie de continuer le jeu, donc je me suis dit bon, en vrai, ça m'arriverait dans la forêt, je me barrerais en courant. En fait, surtout le moment où il dit t'as qu'à me suivre, non.
Par contre, tu m'as demandé ton chemin et je t'ai répondu de façon bourrue, mais je t'ai répondu je vais t'aider à sortir des bois.
Mais n'oublions pas que tu
es perdu à ce moment-là.
Exactement. Et c'est pour ça que j'accepte de te suivre d'ailleurs et que je découvre du coup les aspects fantomatiques. Par contre, j'ai trouvé que comme on s'était dit du coup avant à quoi ressemblaient nos personnages, etc. Du coup, on avait moins de choses à jouer pendant cette rencontre. Je pense qu'il faudrait plus d'éléments à jouer pendant la rencontre.
Alors moi, je crois, mais vraiment, qu'il faut que chaque joueur... Mais le fait que ce soit pas précisé, c'est peut-être sous-entendu que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Parce que c'est bien écrit dans la base. C'est écrit « chaque joueur doit réfléchir à ça ». Il n'y a écrit à aucun moment qu'ils doivent le partager.
C'est pas marqué.
C'est pas écrit. Donc, à mon avis, le contrat tacite, c'est justement de ne pas le partager. Et pourquoi ? Parce que je pense que l'idée, c'est que chacun, dans une rencontre amoureuse ou intime, chacun est dans le dévoilement et dans la recherche de l'entrée dans l'intimité de l'autre. Donc, à mon avis, ça, il y a une espèce de synesthésie entre le fait que les joueurs ou les participants soient dans cette démarche de chercher les secrets que les autres ont préparés pour eux. Ça, c'est les joueurs. Et les personnages, eux, ils sont en train d'entrer progressivement dans l'univers l'un de l'autre. Donc, je pense qu'effectivement, pourquoi elle ne l'a pas mis ? Parce qu'il ne faut pas que les joueurs se disent avant. Si
maintenant,
tu te dis avant, à mon avis, le jeu se dégonfle.
Voilà. Mais maintenant, moi, j'ai des habitudes roro. Généralement, on se décrit les persos avant de commencer à jouer. Et du coup, je me suis vraiment posé la question.
D'accord.
Donc, juste préciser, faut le garder pour la rencontre. Du coup, ça garde aussi des choses à jouer. Quoi qu'il en soit, on s'est rencontrés. J'ai vu que tu étais un fantôme, vu que tu m'as mené aux ruines de ta maison.
Non, je t'ai dit, tu vas venir chez moi, quoi. Je vais te...
Et puis, t'étais étonné en fait, que c'était... quelqu'un te voit. Et puis, tu passais à travers les feuilles.
Je t'emmène à des ruines, en fait. Ouais.
Et on décide, du coup, vu que c'est la première fois que Simon, ton personnage, peut entrer en contact avec quelqu'un, il demande à ce que je revienne et je dis oui. Et du coup, on s'attache le ruban à la fin de la première rencontre et on démarre une série de rendez-vous, de trois rendez-vous, si on ne se touche pas avant. Ouais. Et donc, le premier rendez-vous, quand je reviens, on doit faire des choses dans les bois, des activités dans les bois. J'ai trouvé que le début du premier rendez-vous n'était pas très clair. On s'est retrouvé à pas trop savoir quoi jouer au début du premier rendez-vous.
Mais est-ce que c'était important ? Tu vois, je veux dire.
Je pense que ça gagnerait quand même à ritualiser le début du premier rendez-vous, parce que moi, ça m'a bloqué au début. C'est-à-dire que il a fallu vraiment que je regarde ce qu'on devait faire et je me suis forcée entre guillemets à proposer une activité
dans la
forêt. D'un
autre côté, que celui qui ait des idées le propose. Tu vois, c'est le problème de la ritualisation, c'est que c'est bien sympa, mais ça dit à un joueur, toi, fais ça, fais ci. Alors que là, je trouve que finalement, on a improvisé, on s'est dit, bon, est-ce que tu veux commencer ? Je veux commencer. On s'est mis d'accord très, très vite. Ça a duré 5 secondes, ça n'a pas du tout brisé l'immersion, si j'ose dire. Alors après, oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, si tu veux, c'est que moi, avant même de rentrer dans les détails de la fiction et tout, il y a un truc que je voulais dire, c'est que j'ai eu énormément de mal quand tu as commencé à expliquer les règles à retenir les règles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est un peu d'ailleurs ce que Cédric Ferrand critiquait dans Ésotéorique. C'est que dans les jeux oniriques ou contemplatifs et compagnie, on a souvent tendance, et moi le premier, hein, à ajouter des termes, comme dans le Val par exemple. Le Val, c'est typiquement ça. Un jeu dans lequel on rajoute en fait des termes très ésotériques, très mystiques et compagnie.
Il n'y en a pas tant que ça quand même. Attends, il y a le rendez-vous. Et le rendez-vous. Et le rendez-vous se termine par l'errance où le promeneur est seul.
Voilà, d'accord. Bah, moi en fait, c'est clairement, en tout cas, le vocabulaire utilisé par Morgane m'a empêché de comprendre concrètement ce qu'on allait faire.
Disons que le problème du mot l'errance, c'est un mot très onirique qui fait un peu plus penser à l'être fantasmatique plutôt qu'à l'être humain.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant et ce que je pense que Morgane a voulu dire par là, c'est que l'être humain est autant un esprit du point de vue de l'esprit que l'inverse.
Mais du coup, quand je t'explique les règles, par contre, je pense que c'est pour ça que tu as eu du mal à relier ce mot en fait au promeneur.
Ouais, voilà,
je dis pas que le mot est mal choisi, juste que c'est peut-être pour ça que tu as eu du mal quand il n'y a pas joué. Après y avoir joué, ça devient très clair.
Là maintenant, ça devient très clair parce qu'en plus, donc à savoir qu'on décrivait ton personnage comme étant dans une relation amoureuse avec un espèce de sale type à la fois très matérialiste, très un espèce de pas d'obsédé, mais disons et qui ne croit pas du tout en ces expériences mystiques que tu fais dans les bois et tout ça. Et donc, du coup, en fait, ouais, c'est toi qui es en errance parce que le moment où tu vis vraiment, le moment où tu es vraiment vivante, c'est le moment où tu vas dans les bois et où tu rencontres l'esprit. Tu décris ton personnage comme étant justement en train de s'épanouir en fait dans les bois, alors que dans la vie commune, prosaïque de tous les jours, tu es confronté à Gaston de La Belle et la Bête, c'est-à-dire ce pragmatique chasseur et compagnie. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle intéressant avec La Belle et la Bête sur ce
truc. Ce qu'on a joué, ouais.
Ouais, dans ce qu'on a joué.
Et du coup, dans le premier rendez-vous, on a décidé d'aller faire des ricochets. Et puis comme c'était pendant l'hiver, on a choisi à chaque fois de choisir une nouvelle saison parce que je trouvais ça assez poétique. On a choisi d'aller faire des bonhommes de neige, mais ton personnage ne peut jamais entrer en interaction.
Avec la neige.
Avec la neige, avec tout ce qui se lance, avec la forêt. Donc du coup, il me regarde et me parle plus qu'autre chose.
Alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette seconde rencontre, c'est que c'est là que je commence à te dévoiler les éléments de mon histoire. Où je commence à te dire, bah ouais, j'avais des enfants. Ils sont morts de faim à cause de moi, etc. Alors, est-ce que tout de suite, tu as fait le parallèle avec la légende du Ménil ou
Oui,
pas du
parce
tout
que ouais. Je la connais, du coup. Ouais.
Donc, en fait, au Ménil, il y a une légende qui dit qu'il y avait un fermier qui connaissait l'emplacement où se trouvait la maison des fées et que les fées lui avaient fait promettre de ne jamais révéler cet emplacement à quiconque et qu'en échange de son silence, elle lui avait offert un pain qui jamais ne se terminait. C'est-à-dire qu'il pouvait toujours couper des tranches de pain, le pain constamment repoussé, un peu comme les pommes d'or dans le jardin des Hespérides, où il pouvait prendre de la mie et toujours elle se reformait. Et à un moment donné, au cours d'une partie de chasse, dans je ne sais quel contexte, c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai trippé moi en tant qu'esprit pour cette partie, il révèle en fait l'emplacement de la maison des fées à quelqu'un. Et à partir de là, le pain se change en pierre. Et du coup, il ne peut plus s'en nourrir. Donc moi, j'ai décrit ce fermier comme étant, après son erreur, après avoir montré comme ça à la Maison des Fées, il perd donc ce pain infini, si j'ose dire. Et donc, et du coup, il met sa famille dans l'embarras. Parce qu'évidemment, la légende, le pain infini, c'est pas un pain gratuit. J'imagine que ça fait référence au travail dans les champs, au fait de créer soi-même son pain, en fait. Donc, enfin, je sais pas. J'avais imaginé ça comme ça. Et moi, ça, j'ai trippé, mais alors comme un cochon. Parce que je m'inspirais d'une légende réelle, si j'ose dire. Inspiré de légende réelle. C'est trop drôle. Et en même temps, ça collait tellement à ce qu'on vivait. C'est-à-dire,
ce qu'on était en train
de raconter. Ça, c'est vraiment le gros truc qui m'a vraiment fait tripper dans cette partie. Mais je me suis dit, moi, j'ai pris du plaisir dans cette partie parce que quelque part, je générais de la rétention fascination. C'est-à-dire que je créais un personnage dont tu ne savais rien et j'avais la sensation comme ça de te distiller au compte-gouttes des informations pour te mettre sur la piste
de la
légende.
Mais justement, c'est prévu, c'est plus ou moins prévu dans le jeu. Hein. Notamment dans le deuxième rendez-vous, on doit approcher des esprits. Alors nous, c'est venu assez vite, c'est venu, de demander des nouvelles, des informations sur la vie de l'autre personnage, sur la forêt, les légendes qui s'y cachent. Voilà, c'est normalement, nous, c'est arrivé dès le deuxième rendez-vous. Le troisième rendez-vous doit commencer à poser des questions intimes. Mais comme ça se déroulait bien, nous, on a joué ça dès le deuxième rendez-vous, en fait, parce que voilà. C'est arrivé assez vite.
Mais tu vois que ça révèle un espèce de gameplay asymétrique dans lequel, malgré tout, l'esprit et le promeneur ne sont pas dans
et
la
on
même
joue
démarche.
Pas la même chose en fait et c'est pour ça que moi j'ai pas eu de soucis parce qu'en fait tu en jouant le promeneur tu joues il y a une sorte de synesthésie aussi, c'est-à-dire que tu es un personnage de la vie réelle. Je pense que c'est d'ailleurs important de le jouer dans l'époque actuelle. Hein. C'est précisé au début. Je pense que c'est très très important parce que du coup ça permet au promeneur ça nous permet en fait de nous identifier au promeneur qui va rencontrer quelque chose qui va lui permettre de sortir en fait de la vie réelle. Donc du coup j'étais le promeneur retourne. Pourquoi est-ce qu'il y retourne? Parce qu'il a envie d'être enchanté. De réenchanter en fait sa vie avec une légende, avec quelque chose de la forêt, avec quelque chose de plus en fait. Ouais. Et du coup, c'est carrément ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mon personnage, au moment où tu lui montres toutes les merveilles de la forêt, où tu lui montres à un moment, ton personnage m'emmène dans un espace, dans une sorte de clairière magique où il y a des centaures et tout, où les fleurs en fait ont des rubis, etc. Et revenir à la vie réelle devient
ça, c'est compliqué. Le troisième rendez-vous.
Ouais. Non, c'est le deuxième. Parce qu'au troisième rendez-vous, rendez-vous, tu es en pierre.
Ah non, c'était au troisième rendez-vous, je t'emmène dans le. Non, t'as raison. Ah non, on a été très très vite. Hein. On a fait que trois rendez-vous au final.
Ouais, mais de toute façon, il y a que trois rendez-vous prévus. Hein.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon bah c'est bien. Il faut pas plus, je pense.
Non, il faut pas plus, sinon ensuite ça tourne en rond, je pense.
Ouais, je pense aussi.
Et puis c'est déjà très très bien comme ça. Ouais. Et du coup, oui, le fait de jouer en fait quelqu'un de la vie réelle qui est confronté à ça et qui doit expliquer, parce que l'errance, si on explique comment on sort de la forêt et comment on revient à une vie réelle tout en étant très très en train de rêver en fait. Et du coup, ça nous pousse aussi, le fait de jouer qu'on rêve pendant l'errance, qu'on est en train de penser à l'esprit et tout, ouais. Fait qu'on est obligé d'avoir envie d'y retourner, qu'on est obligé de se donner des raisons de vouloir y retourner. Pourquoi est-ce que ça nous touche? Et je pense qu'après, si on ne connaît pas trop les légendes ou ce genre de choses, ça peut nous pousser, même dans la vie réelle, à avoir envie d'aller visiter certains lieux ou à avoir envie d'aller faire un tour, mettre le nez dans les livres de légendes. Je pense clairement, il y a ce petit côté-là. Quand on joue le promeneur, on ne joue pas la même chose que l'esprit, en fait.
Alors moi, ce qu'on a joué, ça m'a fait penser à des œuvres de fiction diverses. Tu vas me dire ce que tu en penses. Bon, La Belle et la Bête. Parce qu'il y a vraiment ce côté, justement, toi, t'es prisonnière de la réalité prosaïque et moi, je suis cette espèce de fermier bourru qui va t'emmener dans un monde imaginaire et te faire réaliser, enfin, tu vois, te faire finalement entrer dans un conte de fées alors que tu vivais dans la réalité. Ça m'a fait penser aussi à L'Histoire sans fin, ce petit côté appel de l'imaginaire, on a envie d'y retourner, mais en même temps, il y a la réalité où on est un petit garçon qui se fait tabasser par des plus grands que soi, etc.
Ouais, d'autant que moi, j'avais décrit mon personnage comme étant dans les affres de la fin des études, se posant des questions sur sa vie, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et au final, quand ton personnage me dit « mais viens vivre dans la forêt avec moi », mon personnage, à la fin de son errance, se dit « mais faut que je fasse un choix. Soit je trouve comment je peux vivre avec lui dans la forêt, soit je reste dans la vie prosaïque, mais il va falloir qu'on en discute. »
Ça m'a fait penser aussi au labyrinthe de Pan. Hein, dans lequel il y a cette petite fille qui cherche à s'évader comme ça dans un monde imaginaire pour échapper aux violences commises par son beau-père, je crois.
Oui, d'autant que pendant l'errance, il faut qu'on précise ça, la personne qui joue l'esprit peut changer de personnage pendant l'errance. La personne qui joue l'esprit peut jouer l'entourage en fait, du personnage, du personnage du promeneur. Et donc, du coup, Romaric, pendant les errances, jouait mon petit ami bourru de la vie tous les jours.
Ça, c'est génial que tu puisses jouer en tant qu'esprit. Les autres personnages de la réalité prosaïque, c'est super parce que tu peux créer des parallèles ou des antagonismes entre la réalité et l'esprit que tu incarnes. Donc ça, je trouve ça génial parce que ça donne tout de suite énormément de sens aux rencontres et aux révélations que tu vas faire par la suite. Tu peux même créer des parallèles indirects. Tu vois, là, le matérialiste scientifique contre le... Et ce qui est marrant, c'est que ouais, lui, c'est un étudiant matérialiste et scientifique et moi, je suis un fermier qui t'emmène dans le monde du rêve. Enfin, tu sais, il y a une espèce de parallèle entre les deux personnages qui est vraiment très intéressant.
Alors, sachant que dans ce qu'a écrit Morgane, il y a un exemple d'une errance où c'est un homme, du coup, qui retourne retourne à sa vie normale et qui est au volant avec sa femme. Et sa femme voit bien que son mari est en train de penser à autre chose et se demande s'il n'y a pas une autre femme dans sa vie, s'il ne faut pas qu'elle fasse quelque chose pour le ramener un peu vers elle. Ouais. Alors que lui, il va dans les forêts découvrir du coup les dryades, tout ça. Enfin, c'est chouette. Et puis du coup, pendant ce deuxième rendez-vous, sans m'en rendre compte, j'ai touché Romaric, qui joue un centaure. Parce que c'est ça le truc, c'est que Romaric, du coup, l'esprit joue aussi dans le deuxième rendez-vous, on peut entrer en contact avec d'autres esprits. Et il est prévu que du coup, l'esprit joue les esprits de la forêt qu'on va rencontrer. Ouais. Mais du coup, moi je croyais qu'il jouait le centaure, mais du coup, sans m'en rendre compte, je l'ai touché. Et normalement,
Le moment où tu l'as. Pourquoi est-ce que tu m'as touché? Parce que d'habitude, dans les jeux de rôle traditionnels, il y a des moments où, quand on est fortement en immersion, on a envie en fait d'ajouter à la parole le geste. Mm. Et donc, tu as là vraiment. Mais,
et puis le fait que
naturellement,
le.
Tu n'as pas triché.
J'ai pas triché du tout. C'était naturel. Et puis, comme le ruban s'enroule, on se rapproche au fur et à mesure, parce que dès que l'intimité grandit, on s'enroule le ruban autour du poignet. Donc, du coup, on est obligé de se rapprocher. Donc là, on était tout proche. Ouais. Du coup, j'avais envie de te toucher. Tu jouais ce centaure qui avait l'air trop cool. En plus, là, j'étais entourée de trucs complètement fous. Bah, évidemment, j'ai envie de toucher, quoi. Et en fait, là, on n'a pas joué exactement.
Effectivement, mon personnage. Juste, je ne sais pas si tu as apprécié que mon personnage donc t'emmène jusqu'à
un
endroit
fantasmatique
où tu passes entre deux arbres et d'un coup, c'est comme une porte, un portail et tu te retrouves dans une forêt enchantée. Hein. Je l'ai décrite comme un peu comme avec ce grain des films de Marc Dorcel, vous voyez, avec ces espèces de lumières.
Alors moi, je le voyais plus, c'est vrai.
Et tu vois, il y a un côté un peu pornographique, un petit peu. Parce qu'en fait, dans la fantasy, je suis désolé, mais dans la première fantasy, si tu prends par exemple les Conan, dans Conan, il y a des scènes qui sont filmées avec ce grain, là, des films de Marc Dorcel, où vous savez, la lumière, les bougies apparaissent avec des. Alors je sais pas, il faudra un ingé, là.
Une sorte de flou.
Un chef opérateur pour nous dire ça. Voilà, c'est un espèce de flou qui crée des étoiles.
Alors moi, j'avoue que j'avais pas cette. Malgré le fait que tu aies parlé de Marc Dorcel, j'avoue, je n'avais pas cette forêt-là en tête. La clairière, moi j'ai envisagé dans le premier, la Blanche-Neige et le Chasseur, à un moment elle rentre dans une clairière un peu incroyable, et j'ai plutôt envie d'imaginer cette clairière.
C'est exactement ça, d'ailleurs je te décris un centaure, le grand cerf, machin truc, de ce côté-là.
Et du coup voilà, et à ce moment-là du coup je touche le personnage de Romaric qui est l'esprit, et donc là il est bien prévu que du coup je l'ai touché, je ne suis pas censée pouvoir le toucher, et donc du coup on a mis fin à cette scène, du coup Romaric me ramène.
Non, d'abord je t'ai rompu dans l'immersion, je t'ai dit ah tu m'as touché, t'as perdu, la partie est terminée, tu m'as dit oh non c'était un accident,
je t'en prie,
faut qu'on continue parce que j'ai vraiment envie de voir où ça va nous mener. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir de ce moment là ce que Flavie ne sait pas, c'est que pour moi la partie est déjà terminée, parce que à partir du moment où je t'ai montré cet endroit, en fait c'est l'endroit où vivent les fées, Flavie. Donc j'ai trahi ma parole, parce que je t'aime tellement que j'ai envie de t'emmener dans le plus bel endroit que je connais, le secret en fait dont je dispose. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'avais condamné mon personnage. Parce qu'à partir du moment où tu franchis les arbres, j'ai trahi la demeure des fées, et donc du coup, je vais me changer en... Enfin, moi en l'occurrence, je me change en pierre, mon pain est changé en pierre.
En sachant que de toute façon...
Ce qui est génial, c'est que tu me touches à ce moment-là, et moi j'aurais dû raconter comment
normalement quand je te touche on est censé déterminer comment je suis comment il se passe quelque chose de malencontreux et comment tu m'aides et comment tu en meurs au final.
Mais en fait c'est
et du on coup mais fait. au final c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire tu me raccompagnes après m'avoir plus ou moins demandé en mariage finalement avec des fleurs et moi je décide de revenir pour te dire bon il va falloir qu'on trouve une solution, et quand je reviens en fait t'es changé en pierre et je pleure sur ta tombe en fait.
Voilà, et là tu touches, en fait ce qui était marrant c'est que t'as touché ma main en disant bah je touche, et je touche en fait la pierre dans laquelle tu t'es changé. Alors là Morgane, je pense que ton jeu a fait exactement ce que tu voulais que ça fasse. Et au moment où effectivement Flavie m'a touché, tous les deux on avait un peu les larmes aux yeux, on était un peu en mode là vraiment l'instant avec le I majuscule, on l'a senti plein la gueule. Et ça je trouve ça j'ai trouvé
cet instant de la séparation inéluctable qu'on voit nous en tant que joueurs en metagame arriver, mais qu'on voit pas arriver dans la fiction, et qui et là, j'ai trouvé ça cool.
Et moi, en fait, j'avais déterminé... Ce qui est rigolo, c'est que j'avais déterminé absolument toute la partie avant même qu'elle ne se déroule.
J'étais pas au courant.
Voilà, sauf que toi, t'étais pas au courant. J'avais déterminé le fait que c'était en t'emmenant voir les fées que du coup, j'allais trahir ma parole.
Mais ce qui est étonnant, c'est que du coup, tu l'avais déterminé, mais que t'as quand même ressenti des choses à ce moment-là.
Oui, et puis, parce que j'ai ressenti des choses que... Ces choses qu'on ressent en tant que meneur de jeu, quand on crée un super scénar et qu'on le fait découvrir à ses joueurs et que ça marche. C'est ça que j'ai ressenti. Dans ce sens, par exemple, quand j'écrivais des scénarios très métaphysiques où ça part loin et tout, où les gens, ils sont vraiment, tu sens que t'es au bout de quelque chose, quand ça produisait l'effet voulu, puis je mettais de la musique et tout, je ressentais un vrai plaisir. Cédric Kersao, qui intervient souvent sur ce podcast, dit lui-même, les jeux de rôle que j'invente ou les scénarios que j'invente dans lesquels il y a de la peur, je sais que le scénar est réussi quand je commence à avoir peur en même temps que les joueurs. Et là, vraiment, je crois qu'il y avait cette dimension-là. C'est-à-dire que je ressentais ce que tu ressentais.
Mais c'est amusant, du coup, parce que moi, j'ai quand même ressenti pas mal de choses. Et voilà, donc Morgane, pour moi, ton jeu, il est globalement réussi. Il faudrait juste rajouter quelques petites choses sur la scène de la rencontre.
Pour moi, il mériterait d'être plus simple. C'est-à-dire, en fait, je trouve que cette page, c'est trop. Je te dis, il y a trop de verbiage, désolé, c'est extrêmement négatif comme mot, c'est extrêmement péjoratif et ça fait un peu mal. C'est pas ce que je veux dire.
C'est pas ce que tu veux
non,
dire.
Non,
ouais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de notes. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien de rajouter des textes et tout, de prendre des précautions. Par exemple, il y a un moment donné dans un paragraphe où elle prend des précautions en disant attention, essayez de parler avec l'autre pour savoir
sachant
ce qui fait peur.
Sachant que juste avant, tu précises bien. Alors attends, je vais retrouver ça. Tu précises bien des manifestations surprenantes, mais elles ne doivent être ni horrifiques ni glauques. Donc à partir du moment où tu as précisé ça. Même si tu te sens obligé ensuite de dire « Ah, il faut éviter d'effrayer l'autre, demandez-lui si des choses le mettent mal à l'aise », mais des yeux blancs ou ce que tu cites, du coup, c'est forcément horrifique ou glauque dans ce que tu vas choisir. Les choses que tu proposes, c'est des cornes, des ailes, des couleurs, de la lumière, des manifestations surprenantes. Ça n'a en effet rien d'horrifique.
Mais ouais. Donc ça,
ni horrifique,
pas...
ni glauque, ça, déjà, c'est clair.
On ne fait pas jouer un jeu horrifique en mettant des rubans dans la main de ses joueurs.
Mais de fait, même que tu précises, ça doit être ni horrifique ni glauque.
Donc
je pense que ça suffit en fait. Ça suffit largement. Faut pas t'inquiéter. C'est déjà assez clair en fait.
Ouais, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, par exemple, des choses. Justement, tu vois, tu disais qu'il y avait de la ritualisation à faire et tout autour de ce jeu. Ben moi, j'en suis pas certain. Hein, peut-être que juste dire, il y a trois rencontres. Expliquer pourquoi est-ce que vous avez envie de vous retrouver et tout ça.
Alors ça c'est dit. Hein,
oui, ouais, voilà. Mais tu vois. Un truc très court. Je suis sûr que ce jeu, il gagnerait en fait à être plus court et à laisser davantage les gens s'en emparer. Les lecteurs ne sont pas cons. Et
Par contre, moi, il y a quand même des choses qui m'ont aidé. C'est pour ça que j'en parlais.
D'accord.
Notamment la phrase qui permet de démarrer. Je me souviens du jour où cette histoire a commencé.
Ça,
cette année-là,
ouais.
Je me souviens, nous étions en saison choisie. Je voulais aller faire un tour dans les bois cars. Mmh. Et du coup, cette phrase-là m'a beaucoup aidée.
D'accord.
Personnellement,
oui,
parce
aussi.
Que du coup, ça
quand
te permet...
Soudain, le camp soudain aussi.
Le camp soudain, à un moment, j'explique du coup pourquoi je m'égare. Et à ce moment-là, en fait, il y a marqué vous êtes toute seule. Et puis à ce moment-là, vous êtes tout seul, le promeneur, jusqu'à ce que vous disiez soudain ou jusqu'à ce que, ou brusquement. Et là, vous passez en mode à deux.
Voilà. Et tu as justement des petits trucs tout simples. Tu vois,
ouais, ça, c'était génial. C'est pour ça. Quand je parle de ritualisation, je parle vraiment de ces petites choses, vraiment des petits mots qu'on peut utiliser à certains moments qui sont vraiment...
Mais ça
c'est vraiment pour la rencontre, parce que je trouve le reste des rendez-vous est très bien fait.
Très bien fait. Non, mais alors, en fait, le truc, c'est que je suis en train de me dire que là, c'est plus des notes de relecture que des notes de partie. La partie était énorme, on s'est éclaté comme nous.
Enfin, c'était court, et pourtant, c'était très, très émouvant.
Court et intense, c'est vrai. Là, tu vois, on a eu une partie de jeu de rôle très intense en, combien t'as dit, 20 minutes
20 minutes, parce que j'avais les
énorme.
Règles sous les yeux, et je pense qu'on pourrait jouer sans les règles la prochaine
aussi
fois.
Aussi, parce que je pense qu'on a bien choisi le Ménil, c'était un très très bon endroit. La légende qui va avec, c'est vraiment bien. Enfin, on avait choisi des trucs.
Ouais, puis je pense que c'est intéressant quand deux personnes vont jouer là-dedans d'avoir un rendez-vous. On a vraiment choisi un lieu qu'on connaissait tous les deux. Il faut vraiment choisir un lieu qui va intéresser les deux personnes autour de la table. Et le fait de jouer dans l'époque actuelle permet vraiment d'être en synesthésie quand on est le promeneur. Et je pense que c'est hyper important, parce que je pense que si le promeneur, on le joue dans une époque un peu différente, je pense qu'on n'aura pas le même vécu par rapport au promeneur.
Ouais.
Mais bon, maintenant, voilà.
Toi, tu as choisi des espacements entre les rencontres qui étaient très courts.
Ouais. Et en plus, c'est entre deux saisons.
Deux saisons. Deux saisons. L'automne, l'hiver.
Bah ouais, j'aime bien en fait le.
Et le printemps. On a fini au printemps.
Tu parlais de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, je devais l'avoir aussi en tête puisque La Belle et la Bête en fait est rythmée du point de vue esthétique par le changement des saisons. Et plus les saisons changent, plus l'intimité augmente. Et cette intimité qui augmente dans le creux de l'hiver, il fait froid et pourtant du coup l'intimité pousse à grandir. Et puis le printemps, tout éclos. Du coup, les sentiments peuvent éclore. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté très très beau à jouer dans les saisons et plus que dans les années, personnellement. Ouais. Moi, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Et puis, quand on a rencontré quelque chose comme ça, est-ce qu'on a vraiment envie de laisser un an passer?
Ouais,
quand
clair.
On est confronté à quelque chose comme ça, est-ce qu'on a... Enfin,
est-ce qu'on n'a pas envie d'y emmener des gens, envie de...
Voilà.
Moi, un truc comme ça m'arrive... en forêt, j'ai envie de t'emmener pour te montrer l'esprit.
Oui, mais là, il est bien dit pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller dans la forêt seule, etc. Donc ça sous-entend.
Puis on a sous-entendu aussi que c'était un jeu d'amour.
Voilà. Et puis, ça sous-entend aussi pour le promeneur le fait qu'on y aille seul, pas avec quelqu'un. Ça sous-entend aussi qu'il a des choses à régler, qu'il a besoin de solitude à ce moment-là. Pourquoi a-t-il besoin de solitude ?
C'est vrai.
Ce qui veut dire que la personne, elle n'a pas envie d'emmener quelqu'un d'autre à cet endroit-là.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est aussi pour ça que j'ai proposé à personne d'autre.
Je ne vais pas faire la psychanalyse de Morgane, mais... Non, alors moi, un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est le fait que... je sais que Morgane est une rêveuse solitaire aussi. Hein, elle aime bien s'enfermer avec sa musique, aller se promener et compagnie. C'est intéressant de voir comme ce jeu décrit aussi une partie de la Morgane que je connais. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce podcast. C'est très intéressant.
De toute façon, quand on crée quelque chose...
Les jeux d'auteur sont vraiment, pour le coup... ouais, exactement. Je voulais parler aussi du fait qu'on avait joué avec des rubans de... romance érotique, hein,
oui,
si vous avez romance érotique.
Qui marche très bien.
Voilà,
qui font deux mètres tout pile comme c'est demandé.
On les a pas mesurés, mais
Là, ça faisait
deux
mètres.
Trois rencontres, c'était parfait.
Ouais, pour trois rencontres, c'est parfait.
En fonction de vos poignets, bien sûr, si vous avez un poignet de balèze, je sais
ou
pas.
De
si...
mammouth.
De mammouth. Non, mais je crois que de toute façon, c'est nickel. Hein. Deux mètres, c'est vraiment impeccable. C'est-à-dire qu'au bout de trois rencontres.
De toute façon, au bout de trois rencontres, c'est à la fin, on continuait quand même à enrouler le ruban parce qu'on enroule le ruban dès que l'intimité augmente.
Alors ça...
Et ben, on finit par se toucher naturellement. Hein.
Justement, c'est un truc. Moi, j'ai pas trop su quand faire l'enroulement du ruban. J'avoue que je l'ai fait un petit peu. Toi, t'avais l'air de savoir.
Ah, moi, je trouvais que dès qu'il y avait des gestes qu'on faisait l'un envers l'autre qui montraient qu'en fait notre attachement augmentait, quand tu me faisais confiance, par exemple.
D'accord.
Quand tu me faisais confiance en me disant quelque chose de toi, ou quand moi je décidais quand même de te suivre.
Ouais.
Du coup, je décidais qu'en fait c'était de l'intimité qui grandissait, en tout cas de l'attachement qui grandissait au début,
d'accord.
Et du coup j'enroulais.
D'accord, ok. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas trop su. En tant qu'esprit, je ne savais pas trop
quand
le faire.
Mais je pense que là, c'est important de ne pas le préciser parce que c'est la notion que chacun a de l'intime.
Bien sûr.
Et c'est aussi pour ça que du coup, on s'est vraiment laissé aller dans l'histoire. C'est parce que du coup, on met dans l'enroulement du poignet ce qu'on veut bien y mettre.
Ça, je trouve ça génial.
Et du coup, il y a cette partie de subjectif de soi qui pousse à la synesthésie. C'est-à-dire que le moment, on a tous les deux des visions différentes de ce qui pousse à l'intime et on ne l'enroulait pas au même moment, notre ruban.
C'était intéressant parce que justement, on faisait le parallèle avec romance érotique. Une critique qui est souvent faite au jeu de Lionel Jeannerat, que je salue au passage, hein, qui est un excellent ami. Donc, romance érotique, c'est qu'en fait, le jeu romance érotique trahit un petit peu la vision de la séduction que Lionel a. C'est-à-dire qu'on reçoit. Alors, je ne me souviens plus exactement.
C'est montré. Moi, je me rappelle une phrase, genre montrer ses muscles.
Voilà,
ou un truc comme
c'est
ça.
C'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu, peut-être même un peu caricatural. En plus, connaissant le petit diablotin Lionel, je sais très bien que c'est parfois un peu caricatural. Alors qu'ici, Into the Woods, elle prend un parti pris qui est complètement différent. Il prend le parti de laisser en fait aux joueurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'occasion de montrer ce qui pour eux est de l'ordre de l'intime ou pas. En ne disant pas quand est-ce qu'il faut enrôler le ruban, Morgane laisse comme ça une part d'interprétation. Néanmoins, moi tu vois, dans mon cas, j'ai eu énormément de mal à me concentrer à la fois sur la fiction racontée, sur ce que je devais raconter, sur comment je devais vivre les choses, en gros être en immersion et me dire là c'est le moment d'enrouler le ruban. Je ressens exactement ces mêmes problèmes quand il s'agit de donner des points d'immersion
oui,
dans
je
sens
vois ce que tu veux dire.
Ou de donner des points des jetons dans Prosopopée. C'est le genre de truc où ça c'est un
et
petit
bon,
peu une difficulté.
Moi comme on est à deux quand même à jouer, du coup quand tu vois l'autre enrouler
c'est
le
ça.
Ruban, du coup tu dis eh mais oui c'est vrai notre intimité a grandi.
C'est exactement ce qui s'est passé au final. C'est quand toi tu enroulais le ruban, je me disais, ah oui, t'as raison, il faut l'enrouler.
Mais à la fin, c'est toi qui l'enroulais. quand tu m'as demandé en mariage avec la fleur, c'est toi qui enroules et tu as enroulé deux fois autour de ton poignet le ruban.
C'est vrai. Et aussi parce que, alors pourquoi je l'ai fait, il y avait aussi une raison un peu stratégique, c'est que je savais qu'à partir du moment où je t'avais montré le domaine des fées, j'allais mourir. Enfin, j'allais disparaître en tant qu'esprit, en fait.
Ce qui est rigolo, parce que moi, je n'avais pas du tout ce côté stratégique. Mais du coup, je pense que c'est un jeu qui est assez riche, mais qui, encore une fois, à mon avis, doit être joué en porte fermée à deux. Ouais, parce que c'est un jeu dans lequel on se dévoile. Je pense qu'on peut jouer avec des amis. Je pense qu'on peut jouer pas forcément deux personnes du sexe opposé. Je pense qu'on peut jouer deux personnes de même sexe. Mais je pense qu'il dévoile quelque chose de nous à chaque fois. Ce serait intéressant de jouer avec...
de l'amitié.
Ouais.
Hein,
moi, je pensais même, tu sais, à un vieux grand-père qui rencontre un enfant qui s'échappe de chez lui et l'enfant, enfin, ouais, qui va pouvoir lui confier des choses sur
Into
lui.
Into the Woods, c'est ça, c'est aussi là-haut, quoi. Ouais. Quelque part, dans là-haut, on a comme ça deux personnes.
Voilà, ou quelqu'un qui rencontre un père. Du coup, j'avais fait une première note de relecture à Morgane, en lui disant que peut-être je trouvais pas ça très intéressant de jouer des enfants dedans, et je vais revenir sur ma parole. Je pense qu'on peut jouer beaucoup de choses, mais que... ce jeu dévoilant beaucoup de choses de nous, je pense qu'il faut y jouer à porte fermée. À deux seulement, sans que personne puisse nous voir.
Tiens, juste pour te donner, Flavie, une preuve du fait que tout ça était prévu de mon côté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de la première rencontre, quand je te quitte et que je te demande de revenir, je te dis vous lui ressemblez tellement.
Oui, tout à fait.
Sous-entendu, tu ressembles à la femme que j'ai voulu épouser et pour laquelle j'ai montré le domaine des fées. Tu y avais pensé à ça ?
Oui, tout à fait.
Donc, tu vois, tout était... Dans ma tête, en fait, c'était marrant parce que tout était planifié. À partir du moment où j'avais choisi mon esprit, je me disais, OK, je vais m'inspirer de cette légende-là, je vais faire ça, etc.
Alors que moi, du coup, je n'avais rien planifié du tout. Mais comme je le disais début de podcast, je pense que c'est un jeu qui peut aussi poser problème aux gens qui n'arrivent pas à improviser. Je pense que, mine de rien, Morgane, elle fait du GN.
Ouais.
Et du coup, elle a l'habitude d'improviser sur certaines choses à partir de dans une situation donnée. Elle a son personnage, elle sait où elle va. Et je pense que du coup, ça se ressent dedans. Et je pense que si on n'est pas le type de joueur à pouvoir improviser ou à se laisser aller, choisir l'option que tu as prise, c'est-à-dire d'avoir déjà en tête quelque chose, ça permet vraiment de pouvoir avancer. Mais je pense que si on n'arrive pas à faire ça, le jeu, en fait, il y a possibilité de rester bloqué. Mais en même temps, je pense que c'est un jeu pour un certain type de joueur, et je trouverais ça dommage de mettre des objectifs en début de rendez-vous, exemple. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nécessite de se laisser aller, parce que sinon on pourrait pas rentrer dans l'intime comme ça.
Ouais.
Et le petit côté bouleversant qu'on a eu à la fin du jeu était vraiment cool.
Un truc aussi que je voulais dire qui montre que c'est aussi issu, je pense, que ce jeu est aussi issu de réflexions qu'elle a eues autour du GN, c'est que, tu sais, dans le GN, il y a des signes et des symboles tactiles pour dire jusqu'où on va. Tu sais, Maxime en parle souvent dans le podcast. Par exemple, quand on commence à se toucher le doigt, je crois que ça veut dire que je t'embrasse. Quand je te touche le poignet et quand je te touche le bras, c'est que je te fais l'amour ou je ne sais plus quoi. Enfin, tu sais, il y a des signes, en fait, qui permettent aux joueurs d'être justement synesthésie avec leur personnage sans pour autant rentrer dans des actes sexuels de fait qui poseraient un certain nombre de problèmes. Parce qu'évidemment, même si c'est un GN, si je fais l'amour à une autre femme dans le GN et que par ailleurs je suis marié à Flavie, ça peut poser un certain nombre de problèmes.
Là,
tu vois, on trouve des astuces, en fait, qui sont de l'ordre de la synesthésie pour décrire le rapprochement amoureux. Et là, on voit bien le ruban, en fait, qui s'entoure, les joueurs qui se rapprochent au fur et à mesure. Ma foi, c'est ça. C'est déjà mettre en scène, par un rapprochement physique, une certaine synesthésie avec le rapprochement.
Mais encore une fois, c'est pas un jeu uniquement d'amoureux. Hein. C'est juste un jeu vraiment de découverte. Il peut y jouer entre deux amis proches ou même entre deux personnes qui ont envie de découvrir un peu les univers.
D'ailleurs, à la fin, on ne fait pas l'amour. Hein.
Non,
on
du
se
tout,
touche.
On ne fait que se toucher. Ouais, se touche et puis ensuite, la personne, l'esprit s'évade, l'esprit part. Donc.
C'est un jeu très sensible. Vraiment.
Ce qui est rigolo, c'est que t'y croyais pas trop au début.
Non.
Et donc, du coup, et puis moi, justement, je commence le podcast en disant bon, c'est pas du tout ton genre
c'est
de jeu, comment ça s'est passé.
C'est pas du tout mon genre de jeu, mais ça passe, ça marche bien. Ça marche très très bien. Et aussi parce que j'ai eu la sensation d'être maître du jeu, maître de mes émotions. Tu vois, par exemple, un truc qui me dérange dans les jeux de rôle de Thomas Munier, hein, une raison pour laquelle j'arrive pas à y jouer, c'est parce que, mais c'était pareil avec les petites choses oubliées, j'avais pas cette sensation de maîtriser, c'est-à-dire d'être dans le contrôle de mes émotions malgré tout. Parce que moi, je veux bien être bouleversé, mais je veux bien contrôler aussi mon bouleversement en un sens.
Oui, je vois bien ce
Et le problème de ces jeux, c'est qu'ils me bousculent, ils me bouleversent, ce qui est bien aussi, hein. être sorti de sa zone de confort, c'est cool aussi. Hein. Je dis pas que ce sont des mauvais jeux, les petites choses oubliées et les jeux de Thomas Meunier.
C'est juste que toi, ça te sort d'une zone de confort dans la, de laquelle tu n'es pas prêt
voilà,
à sortir.
C'est ça, exactement. C'est pas, ça va trop loin en fait. Pour moi, voilà, moi je suis. Et ce que je trouve bien avec Into the Woods, c'est que justement, c'est un jeu qui est suffisamment juste, qui va pas trop loin pour moi, mais en même temps, qui me permet d'exprimer des choses qui sont profondes.
Oui, parce
et
que
qui
moi,
sont...
quand on me pousse à aller trop loin, trop vite, généralement, j'ai une barrière qui se met d'un coup, ouais, et où je vais pouvoir demander à mon personnage de faire un peu nimp, ouais, ça me posera pas de problème.
Je vais me transformer en monstre. C'est ce que disait Thomas. Thomas Meunier me l'a très très bien théorisé, il me l'a très bien expliqué. Il m'a dit, Romaric, tu es quelqu'un qui est tellement sensible que quand on joue par exemple à des jeux d'horreur ensemble, tu préfères plutôt que de subir l'horreur et d'avoir peur, tu préfères passer de l'autre côté de la barrière et te transformer en monstre. Et là, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait dans Into the Woods, sauf que le jeu me le permettait. C'est-à-dire que plutôt que de me laisser bousculer ou attendrir ou machin truc et risquer de pleurer, j'ai préféré rester dans le contrôle et du coup je suis devenu entre guillemets meneur de jeu de façon à me dire non là ça va.
Et pourtant la fin était on s'est regardé tous les deux, c'était un peu dur, hein.
Oui, mais justement c'est
mais c'était chouette,
c'est comme ça que moi personnellement je prends mon pied, tu vois.
Moi aussi, parce que là enfin c'était la limite, fallait pas que ça aille plus loin, moi, sinon ça aurait été un peu compliqué, je pense.
On n'aurait pas pu continuer à jouer, parce que jouer, ça reste quand même jouer. Quand on commence à ressentir ce genre d'émotion, on passe déjà ailleurs, on n'est plus dans le jeu vraiment. En tout cas, moi, c'est un ressenti personnel vraiment.
En tout cas, Morgane, pour moi, ton jeu, il est presque publiable. Hein. C'est très bien. Ouais.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser aussi, cette petite partie ?
Non, du tout.
Bah, la leçon de piano, bien sûr.
Ah oui, mais parce qu'on a joué aussi L'homme des bois, tout
mais
ça.
Complètement. Mais c'est complètement la leçon de piano, en fait. C'est-à-dire que on a une femme qui appartient à un monde prosaïque qui ne le comprend pas et qu'elle ne comprend pas et qui va faire la découverte d'un homme qui, pour la première fois, la comprend, quoi, et comprend son univers intérieur à elle, et avec qui, justement, elle va pouvoir s'épanouir et compagnie. Et je trouve qu'il y a un côté comme ça.
Mais bon, peut-être une autre partie
et
aurait donné
plus,
une chose différente.
Dans la leçon de piano, c'est une partie d'Into the Woods pour moi.
Ouais,
parce
c'est
que,
pas faux.
En
mais
plus, c'est
que
dans
lui,
les bois.
Lui n'est pas,
lui
n'est pas
bois.
Un esprit, mais...
Ah, c'est vrai. Mais par contre, c'est quelqu'un de très marqué par la spiritualité
mystique
de l'île dans laquelle ils vivent. Et qui comprend l'esthétique. Hein, le moment où la petite fille...
Mais du coup, le fait qu'il n'ait pas un esprit, etc., et qu'il ne s'apprête pas à disparaître, mène en fait à de la sexualité, ce qui n'est pas le cas, en fait, dans Into the Woods.
D'accord, mais...
On est vraiment sur de l'intime, là où la leçon de piano, c'est vraiment la découverte par une femme de son corps et de sa féminité, de sa sexualité.
Ça, c'est comme ça que tu l'interprètes. Moi, pour moi, la leçon de piano, c'est... Bon, bah, on va pas faire un podcast sur
la leçon de piano.
Il faut voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu,
Et puis, Cocotte, Into the Woods, c'était bien.
C'était très, très bien. On a passé vraiment un super moment. Après, on peut dire aussi que ce qui est intéressant pour toi, Flavie, c'est que ça l'a vu. En plus, là, maintenant, on l'a joué en prenant un compte et tout. Ça me fait penser un petit peu à ton projet de jeu de rôle.
Exactement. Mais s'il n'y a rien de... Ça ne peut pas...
Non, mais c'est marrant.
Mais c'est intéressant.
Je pense que c'est intéressant pour toi de voir... Non, parce que ton jeu se passe sur des parties qui sont déjà beaucoup plus longues, c'est pas le même but recherché, mais malgré tout j'ai trouvé qu'il y avait des petits points communs, mais on en parlera peut-être plus tard dans un autre playtest dont tu seras la victime cette fois-ci. Ce sera toi qui seras dans les bois. Allez, à bientôt tout le monde.
Salut.
Merci Flavie de m'avoir fait découvrir ce jeu, c'était génial. Merci Morgane de nous avoir donné à playtester Into the Woods. À très bientôt tout le monde, d'ici là, bientôt pour notre prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien.
Salut tout le monde.